4 months away. You got to get your tickets, Jim, because they're going fast and it can't last. All right now, the time is 7:54 and there's a breeze of 50 degrees around your M11 hips. And the weatherman says we have a taste of fog. I say we got a bowl of soul, and if you think your heart can take it, woo, come fly higher with the heavy.
Canal Sud, 92.2. Un frisson dans la nuit.
Veuillez que je ne veux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile. Puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. Le monde, mon semblable, mon frère.
Le mercredi 17 janvier, toute la journée, il vous faudra sacrifier au réflexe QR code. Le mercredi 17 janvier, toute la journée, il vous faudra sacrifier au réflexe QR code. Ce qui suppose un certain nombre de choses qui confinent à l'aliénation communicationnelle. Donc, ce n'est pas nécessaire, ni obligatoire. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais vous ne saurez pas de quoi il retourne, ou il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir un aperçu de ce qui se sera passé ce 17 janvier. Un QR code ? C'est ce dessin disgracieux que l'on voit partout, et pour le lire, il faut un QR scanner, et donc un smartphone. De quoi se redire ?
Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas
toi.
Un supplément au monde réel,
oui,
la
veux.
Décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement,
ce curieux
le spectacle constitue le
il
modèle
toi,
présent de la vie socialement dominante.
Il
est l'affirmation omniprésente.
Il s'agit d'un sujet profondément
à l'alcool. Sa consommation corollaire.
Bien entendu.
La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image.
De ses désirs,
la praxis sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui
ma
contient
jeune
le
mémoire.
Spectacle.
Tous les parfums d'Arabie.
Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle.
L'originalité de l'homme a été jusqu'à présent
que dites-vous,
sa possession
dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux.
Elle est forte sur le fer.
comme considérer selon ses propres termes le spectacle et l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine et la vie sociale comme
simple récit.
Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le décrit comme la négation du
temps
de la vie,
comme
une négation
encore
de la vie qui est devenue visible.
La grande affaire de cette nuit, qui pour toutes les nuits et tous les jours à venir, nous assurera une autocratie souveraine.
Le spectacle se présente comme une
sollicitation
d'un passé
qui ne pourra plus rentrer dans le souvenir ou dans une répétition.
Il ne dit rien de plus que ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît. L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans
résistance,
par son monopole de l'apparence.
Les amateurs d'histoire,
le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même.
La matière est riche,
il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels.
Un enfant perdu, parmi tant de fragilités, le pouvoir est entre nos mains.
À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée. Il n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil.
Le même effort de réalisme,
le fait que la puissance pratique de la société moderne s'est détachée d'elle-même et s'est édifié un empire indépendant dans le spectacle ne peut s'expliquer que par cet autre fait que cette pratique puissante continuait à manquer de cohésion
visiblement
et était demeurée en contradiction avec elle-même. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir,
Barbara,
la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée centrale pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique de l'entre-même, où toute autre parole est bannie. Le plus moderne y est aussi le plus archaïque.
Avec Barbara, on se rend compte.
La vision généralisée du spectacle est inséparable de l'état moderne. C'est-à-dire de la forme générale de la fiction dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de la classe.
Par une action sur les consciences, celle qui le
dans formule, le spectacle,
et celle qui l'entend.
Le monde se représente devant le monde
et la brèche,
et l'extérieur. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Ce qui relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement.
On ressent la chaleur de la ville
et ce coup
s'espace.
Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé.
Jamais revu depuis.
Le vin de la vie est tiré.
Le travailleur ne se produit pas lui-même. Il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Tout le temps et l'espace de son monde lui deviennent étrangers avec l'accumulation de ses produits aliénés. Les forces mêmes qui nous ont échappé se montrent à nous dans toute leur puissance. L'homme séparé de son produit, de plus en plus puissamment, produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Le spectacle et le capital à un tel degré d'accumulation de...
Il s'agira d'un anniversaire et ceux qui connaissent plus ou moins le monde des arts, plastiques, contemporains, peuvent peut-être deviner. Mais ça n'a pas grande importance. Donc, sur le site de Canal Sud, sur la page Un frisson dans la nuit, vous aurez un code QR et vous pourrez satisfaire votre curiosité dès minuit, le 17 janvier. Et pour ce soir, la morosité gagnant, je n'aime pas dire, même penser, que c'était mieux avant, et avec beaucoup d'efforts, je me persuade que ce sera mieux après. Sauf que je ne sais pas de quel après je parle, ou quand commencera l'après. Tant qu'il y aura des empêcheurs de laisser libre cours au temps qui inventent des après qui ressemblent à avant-empire, nous ne saurons pas quand pourrait apparaître l'après. Je n'aurais jamais imaginé, par exemple, que le redoublement puisse encore être à l'ordre du jour. Mais ce ne sont que des après d'avant très marginaux et anecdotiques. Le problème de l'école est avant tout un problème de société, de solidarité et donc de fraternité. À relire l'excellent texte de Charles Péguy au moment de la mise en place de la loi d'orientation de 2005 sur l'école publique. Bon, allez, ce n'est pas trop long, j'y vais. La crise de l'enseignement n'est pas une crise de l'enseignement. Il n'y a pas de crise de l'enseignement. Il n'y a jamais eu de crise de l'enseignement. Les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement. Elles sont des crises de vie. Elles dénoncent, elles représentent des crises de vie et sont des crises de vie elles-mêmes. Elles sont des crises de vie partielles, imminentes, qui annoncent et accusent des crises de la vie générale. Ou si l'on veut, les crises de la vie générale, les crises de la vie sociale s'aggravent, se ramassent, culminent en crise de l'enseignement, qui semble particulière ou partielle. C'est en effet à l'enseignement que les épreuves éternelles attendent, pour ainsi dire les changeantes humanités. Le reste d'une société peut passer, truquer, maquiller. L'enseignement ne passe point quand une société ne peut pas enseigner. Ce n'est point qu'elle manque accidentellement d'un appareil ou d'une industrie. Quand une société ne peut pas enseigner, c'est qu'une société ne peut pas s'enseigner. C'est qu'elle a honte, c'est qu'elle a peur de s'enseigner elle-même, pour toute humanité. Enseigner, au fond, c'est s'enseigner. Une société qui ne s'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas. Et tel est précisément le cas de la société moderne. Bon, ça a un certain écho aujourd'hui. Allez, du pur années 70, revisité 2020 par Irma.
Well, we got no choice. All the girls and boys making all that noise, 'cause they found new toys. Well, we can't salute you, can't find a flag. If that don't suit ya, that's a drag. School's out for summer. School's out forever. School. We might not.
Voilà, dans la devise de la France, je ne sais pas trop ce que veut dire fraternité, qui est devenue une simple valeur morale et plus un principe comme l'est la liberté et l'égalité. Ce qui fait que qu'on peut aujourd'hui rédiger une loi Borne-Macron sur l'accueil des immigrés, ou plutôt le non-accueil des immigrés, sans frémir, ou sans déroger à la devise. Toutes ces digressions, qui n'ont aucune importance pour cette émission annonciatrice d'un 17 janvier 2024, confidentielle certes, mais pas commun, alors une idée de ce que pourrait être ce 17 janvier, à tous les gens nés un 17 janvier. Et pour alimenter cette attente exaspérante, tirée de « c'est ici que nous observons d'autres villes croître à en perdre la raison » d'Hélène Meloy, proposée par les excellentes éditions Blast de Toulouse, je crois. Un livre qu'il faut toujours avoir dans la poche, ne serait-ce que pour se rappeler ce qu'est une pelouse ou le délire réflexif que provoque un embouteillage. Des textes d'une ou deux pages à lire en toute saison. Et là, pour l'actualité ou l'actuelle saison, je lirai les quelques pages de l'hiver. Les textes d'Hélène Meloy sur l'hiver, tirés de son livre « C'est d'ici que nous observons d'autres villes croître à en perdre la raison ». J'ai l'impression de faire ça tous les jours. C'est d'ici que nous observons d'autres villes croître à en perdre la raison. Nous observons d'autres villes croître à en perdre la raison. D'autres villes croître à en perdre la raison. La raison. En perdre la raison. En perdre la raison. D'autres villes croître. D'autres villes croître. La raison. En perdre la raison. En perdre la raison. En perdre la raison. En perdre la raison. D'autres villes croître. D'autres villes croître. En perdre la raison. En perdre la raison. En perdre.
Entre Toulouse et Albi, on vit un paradis. À Loprès, on fait de l'ail. À Castres, c'est le bétail. À Gaillac, c'est le bon vin. À La Forge, c'est notre grain. Entre Toulouse et Albi, beaucoup de choses entre Toulouse et Albi, on vit un paradis. À Goyer, on travaille la peau. À Albi, c'est les métaux. À Cordes, on monte au ciel. À Puylaurens, on fait le miel. Entre Toulouse et Albi, beaucoup de choses entre Toulouse et Albi, on vit un paradis. Amis touristes, venez passer l'été, à cheval, en voiture ou à pied. Amis touristes, venez passer l'été, vous n'allez pas me regretter. Entre Toulouse et Albi, on fait beaucoup de choses entre Toulouse et Albi, on vit un paradis. Entre Toulouse et Albi, on fait beaucoup de choses entre Toulouse et Albi, on fait beaucoup de choses.
Dans l'état de l'Utah, avoir une pelouse est volonté divine. Un jardin négligé et rongé par les mauvaises herbes autour d'une maison ne signifie qu'une chose. Son propriétaire est mort. Là où je vis, cependant, est zone de non-droit. Certes, on y trouve bien quelques pelouses officielles, l'église, l'école, et plusieurs propriétés se trouvent posées sur ces rectangles de ciboulette, visiblement soignées par des flottes de jeunes cyborgs en combinaison intégrale, verte, brandissant de minuscules ciseaux affairés. Mais les autres préfèrent plonger à bras le corps dans une intifada des mauvaises herbes disparaître. Ici, les habitants chérissent des arbres donnant de l'ombre, des fleurs résistant à la sécheresse et parfois même quelques plants de tomates assortis de ces piments diaboliques prévus pour l'incendiaire sol salsa traditionnel. Il faut dire que le concept de pelouse se fonde plus sur un principe de domination que d'adaptation aux conditions locales. Or, par ici, être sans pelouse n'est pas se dérober à son divin devoir de conquête de la nature, mais être adepte de réalisme adaptatif. Moi-même, je conçois mes 2 hectares de désert comme une sorte d'étang de Walden, tenu par un paresseux malpropre, conservant leur caractère indiscipliné par pur air de défi et une attachante perversité. L'esthétique de mon terrain ne provient pas d'une frivolité permise par les climats humides, mais des limites étroites qu'offre l'aridité. En fin de compte, je ne suis pas sa paysagiste, mais sa fervente fauteuse de troubles. Parfois, les mauvaises herbes font preuve d'un tel déchaînement d'agressivité que je suis en fait tenté de les observer de loin et d'attendre la suite des événements. Qui usurpera l'autre la première? Laquelle de ces touffes isolées aux feuilles chétives possède, à vrai dire, ses racines implantées dans le sol du Nouveau-Mexique? Est-ce vrai que les virevoltants sont capables de germer en 36 minutes seulement? Sur notre terrain, nous faisons pousser des légumes, herbes aromatiques et fleurs sauvages. Mon mari parle aussi de planter un mince rectangle d'herbe sous sa chaise de jardin. Pour le reste, il n'est pas question de faire pousser du gazon. Nous ne possédons peut-être pas de tondeuse, mais nous avons des principes. D'ailleurs, pour tout vous dire, tel me semble le mode d'emploi d'une pelouse. Jeter des litres et des litres d'eau assortis de produits chimiques sur votre gazon, attendre qu'il s'extirpe de la terre, puis lui couper la chique avant qu'il ne puisse pousser, se reproduire et répandre ses graines. La définition d'une pelouse, un cycle sans fin d'écologie voué à l'échec. Je pourrais prétendre que les pelouses n'ont jamais leur place ici dans le désert. Je pourrais tout aussi bien m'appeler une adepte du réalisme adaptatif. Mais sans la possession d'un de ces épais tapis brosses militaires, je m'approche certainement plus d'une sorte de communiste mal dégrossi à la botanique négligée. Bonne à brûler en enfer, trancherait le dieu tout-puissant des pelouses.
Thank you.
Chaque hiver, un orignal surgit devant moi. Je ne suis pas à l'affût. L'orignal fait seulement en sorte de se trouver là. Bien sûr, il manque à une telle apparition l'incertitude flottante qui caractérise toute excursion typique d'observation de la faune. Mon orignal, quant à lui, n'est jamais une vague apparition. Il se tient généralement aux abords d'une tourbière, comme s'il avait toujours été là. Un porte-manteau de fourrure enraciné dans du ciment. C'est à cet instant précis que je passe justement devant lui, embourbé dans le sol. Cette situation me donne tout le temps du monde pour observer le fanon de sa peau qui se balance dans le vide. Des lèvres tombantes, un museau ballant, fourré d'herbe aquatique. Cette masse osseuse, enfin, surgissant de sa tête, comme une bulle de bande dessinée sans dialogue. L'orignal serait-il en train de s'essayer à penser? Le poète Ted Hughes nous dit qu'ils ont cet air parce qu'ils ne savent plus où se trouve le monde. Où est passé le monde? Gémit l'orignal. Ô mon monde perdu! Et pourquoi suis-je si laid? Pourquoi je suis si loin de mes pieds? Gémit-il encore. Ils ont constamment ce même air, nous suggère quelqu'un d'autre, comme s'ils souffraient de leur adhésion à des théories que personne d'autre n'approuve. Quelque part dans ce monde se trouve donc un orignal qui pense que la terre est plate, et un autre qui place ses espoirs dans la fusion à froid. Je repère l'orignal, penseur de cette année, un mâle, aux abords d'un bosquet de faux trembles, dans le parc national de Yellowstone. Ce dernier est particulièrement immobile et semble être capable de soulever, en déplaçant sa tête d'un côté ou de l'autre, deux de ses plantureux peupliers. Peut-être attend-il que ses bois tombent avant de reprendre sa marche. Ou peut-être pense-t-il à déménager à Yelverton, au Canada. Peut-être encore est-il reconnaissant envers la neige au sol qui lui évite d'avoir à se soucier des plantes rases. À cause de la longueur réduite de leur cou et de leurs jambes tout en longueur, les orignaux sont en général obligés de faire le grand écart ou bien de se mettre à genoux pour pouvoir se sustenter de la végétation au sol. Un orignal de Yellowstone préférerait mourir plutôt que de se faire surprendre à genoux par un touriste. C'est par amour propre que le mâle reste donc immobile. Tout ce qu'il souhaite est un peu de respect de sa vie privée. Je continue ainsi mon chemin. J'adore les orignaux, et encore plus cet air ahuri qui est le leur. chaleur de l'été a perdu de sa férocité. L'automne se glisse dans les ombres qui bordent la rivière. Le changement de saison. Ce qui rend peut-être à chacun son mouvement. Or, une créature en mouvement n'est rien de moins qu'un repas. La faim, saisir la faim. C'est ce que cette semaine nous a offert. Quelle qu'ait été la créature qui a tué le premier serpent, celle-ci avait disparu à notre arrivée. Chasse récente. Un serpent jarretière, vert jaune, encore lisse et souple. Marc me dit que les morsures sur ses écailles ont été faites par des dents. Je rectifie. Ce sont des griffes qui sont ces marques. Nous partons en quête d'empreintes de lynx, roux ou de puma. Mais rentrons bredouille. Les serpents dans le coin tombent bel et bien du ciel. Il n'est pas rare en effet de voir des aigles royaux survolant le canyon de la désolation, des serpents pendouillant à leurs griffes. Des serpents pendouillant à leurs griffes. On dit qu'une fois, un oiseau a lâché un serpent à sonnette dans un canot, ne laissant aux rafteurs que le choix de se précipiter dans l'eau. Acte délibéré de sournoiserie rapace, j'en suis sûr. Sur la scène du deuxième cadavre, il y avait, à vrai dire, aucun serpent. Mais dans le sable pâle se lisait sans difficulté le drame. D'un côté s'approchaient d'élégantes courbes en S, de l'autre, les empreintes d'un coyote en chasse. À leur intersection, le creux laissé par l'arrière-train du coyote, un arc d'espace dénué de traces. Les sillons profonds de ses pattes avant, chargeant le serpent. Ni corps, ni sang, un simple casse-croûte, c'est tout. Le troisième cadavre, quant à lui, matérialisait le concept d'évolution directement à nos pieds. Aux abords de cette rivière, la course à l'avantage entre prédateurs et proies avait abouti à l'impasse. Le serpent avait avalé un poisson-chat. Le poisson avait ensuite bougé, ou peut-être le serpent avait-il eu un haut le cœur. Ou peut-être le serpent avait-il eu un haut le cœur. Il n'en reste que le poisson avait alors dilaté ses ouïes, et de la même manière que les potelés qui laissent les voitures sortir ne laissent pas rentrer sans provoquer une disgracieuse déchirure, et de la même manière que les potelés qui laissent les voitures sortir ne les laissent pas en rentrer sans provoquer une disgracieuse déchirure dans leurs pneus. Il n'en reste que le poisson avait alors dilaté ses ouïes. Et de la même manière que les potelés qui laissent les voitures sortir et ne les laissent pas rentrer sans provoquer une disgracieuse déchirure dans leurs pneus, les arêtes situées sur les ouïes s'étaient prises dans la gorge du serpent. Serpent étouffé et poisson asphyxié. Impasse pour l'évolution. Quatrième serpent, enfin, ce n'était pas une mauvaise semaine du tout, dans la tignasse d'arbustes de Greswood. On remarqua une lapine traînant une queue inhabituellement longue. Un serpent taureau la tenait en effet par les fesses comme un bulldog s'accrocherait à son sofa. Le serpent la lâcha enfin gobant une boule de fourrure. Pour s'en aller ensuite gober un ou deux lapros dans un terrier voisin. La mer s'approchant, le serpent fit claquer à nouveau ses mâchoires sur sa queue. Pendant que la lapine sautillait, un serpent à son derrière, d'épis se servir dans le lapin. Ni sang, ni boyau, un simple casse-croûte, c'est tout.
We'll be right back.
mes voisins navarros définissent leur lieu de vie par un cercle, bordé de quatre montagnes. Mon habitat aussi possède ses frontières. Je n'ai pas dessiné de carte, mais je sais d'instinct si je suis dans ou hors de mon domaine. En dehors, mes sens s'émoussent. En son sein, la seule cloison entre les déserts et moi-même est une membrane de peau. Car habiter l'Utah, c'est d'abord ceci, le lys de la roche sous les battements de mon cœur, allongé face contre terre, la terre de l'Utah. Je vous plante le décor, un minuscule village si dans une terre faite d'ossements rouges. Être de l'Utah, c'est la rivière San Juan à mes pieds, un voisin qui fait pousser les meilleurs chilis du monde, un autre cultivant les meilleures pastèques de l'univers. J'habite un lieu où il y a peu de risque de se faire avaler par d'imposants mammifères. Où, Dieu merci, l'éventualité d'un terrain de golf est mince. Ou encore, il me faut conduire plus de 100 km jusqu'à l'état voisin pour acheter un clou. Ou enfin, les pieds dans l'état voisin, se rendre dans un magasin d'alcool et commencer à sangloter à la vue de cette incroyable sélection de vins. Vous attire la pitié du gérant. « Ah, vous êtes de l'Utah, vous, c'est bien ça. » C'est d'ici que nous observons d'autres villes croître à en perdre la raison. Voir cela nous fait nous accrocher comme à la prunelle de nos yeux aux raisons de notre amour pour ce lieu. Alors on garde ce village à la lisière de l'inconfort et on envoie ses habitants à plus de 100 km d'ici pour acheter un clou. Oui, la vie se déroule dans un paysage d'une beauté telle que c'en est pour moi lancinant. C'est tout entière que je cède à une nature plus sauvage que civilisée, me contrefichant éperdument du reste. Tout le monde ici possède un certain grain d'excentricité et se moquerait bien de vous voir porter votre pyjama à la poste. Mon singulier habitat, pris dans ce plus vaste ensemble qu'est le singulier état de l'Utah, est loin d'être ordinaire. Mais cette singularité est possible, et c'est bien ce qui, ici, donne à la vie tout son sens.
Yeah.
Info animale. Voilà les infos de ce soir. J'ai une fois de plus programmé le dîner à l'heure de la diffusion d'un documentaire choc sur la vie sauvage des animaux. Hier soir, au même moment où j'enfournais une fourchette débordante de lasagne au fromage, quarantaine affamée éviscérée des gnous devant mes yeux. Ce soir, un homme s'inscrit en faux contre la réintroduction des loups dans l'Ouest. Le loup tue pour sa subsistance, annonce-t-il, avant de poursuivre. Je me demande si les gens qui souhaitent le retour du loup seraient aussi enthousiastes à l'idée de voir une meute de loups sauter sur un cervidé et croquer dans l'animal encore vivant. Cet homme a raison, pensais-je, repoussant mon assiette. La nature est brutale et les loups devraient changer leur manière. Premièrement, ces derniers devraient se débarrasser de cette écœurante technique de meute et engager quelqu'un qui leur procure leur nourriture. Ensuite, ils devraient, comme nous, se redresser et utiliser des fourchettes. Réservons enfin quelques tables à pique-nique pour les meutes de loups. Donnons-leur des bavoirs et du sang et du... Donnons-leur des bavoirs et du foie d'orignal, dénué de toute palpitation sanguine, bien sûr. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas leur faire porter des pantalons afin qu'aucune famille de Lioa n'ait plus à souffrir de la vue d'une meute errante de canidés dans leur plus simple appareil, rongeant des pattes de wapiti à 15 mètres d'une boutique de souvenirs. J'exagère peut-être. De temps à autre, cela dit, la faune est prise d'assaut par une maniaque éruption d'anthropocentrisme. Déconcertés par la façon dont la nature fonctionne, nous finissons par en vouloir aux bêtes elles-mêmes. Il y a peu, dans une forêt publique, on a pris un ours pour un gros rocher, lequel a été consciencieusement mis à feu par les pompiers qui cherchaient à créer une barrière de prévention anti-incendie. Ailleurs, des gardes forestiers s'appliquaient à améliorer l'habitat naturel des orignaux avec de la dynamite dans le but de leur créer des espaces marécageux. Lorsqu'ils appuyèrent sur le bouton, au moment même où deux orignaux se baladaient sur le site de l'explosion. Les gardes rapportent qu'en raison de la force de l'explosion, la viande des animaux n'a pu être récupérée. Les habitants de l'Ouest vivent plus proche de la faune et de la flore que la majorité du commun des mortels. Observant un wapiti, il est rare que nous confondions fesses et flancs. Faire la différence entre un coyote et un caniche est aussi quelque chose que nous savons faire. Alors pourquoi subir cette irruption d'anxiété animale? Peut-être est-ce la vue du phénomène naturel de prédation, des loups jetant un wapiti à terre et le découpant de leurs dents naturelles attributs de leur espèce, qui déclenche en nous cette angoissante révélation que l'humain aussi est un animal. Ou peut-être nous rabattons-nous sur d'autres créatures par conscience de notre capacité à nous-mêmes nous comporter en bêtes sauvages. Les lois de la chaîne alimentaire nous sont à présent si lointaines que nous en oublions le fait que nous aussi faisons partie du festin. Nous sommes pourtant l'exécuteur, voire parfois le plat principal. Parlez-en donc à un grizzly ou à un requin. Nous en sommes, cela dit, de moins en moins les témoins. Rendus si étrangers aux mœurs des animaux sauvages, nous insistons pour qu'ils se comportent comme nous ou pour qu'ils disparaissent. Or, nous avons beau désormais chasser notre viande dans les allées d'un supermarché et porter des pantalons, nous tuons bel et bien pour vivre. En diabolisant les loups et en immolant les ours, nous nous proclamons Dieu et oublions que nous appartenons à la classe des mammifères. Voici un acte d'amnésie bien dangereux. Les loups n'ont pas de leur place parmi nous, insinuait l'homme au reportage, s'ils nous dégoûtent par leur façon de se jeter sur un pauvre Bambi, le dévorant sans même le cuire au préalable. Orgueil, idiotie, piètre conception de la biologie. Prenons-en conscience et laissons-nous émerveiller par la véritable vie sauvage. Le loup, sur notre postère nature, est un tueur, un prédateur aux compétences et à l'endurance non négligeables. L'être humain, dans votre miroir, est un animal. Ces deux révélations devraient nous empreindre à la fois d'humilité et de noblesse. Why don't you write a little rock and roll song for your little rock and roll some gal? You know all about how she's thinking. She'll open like an oyster shell, yeah. Why don't you write a sad little love song for your sad little loving gal? You got a 1, 2, 3, 4 reasons to tell her where your heart belongs. Sad little lover make a sigh. mon dernier voyage en Californie, je me suis retrouvé coincé dans un bouchon sur l'autoroute. Trois voies de véhicules vomissant leur gaz d'échappement, leur vapeur faisant éclater mes quelques cellules de matière grise restantes comme du papier bulle, me mettant presque KO. Au point que si la circulation avait repris son rythme normal, j'aurais avachi sur mon volant, stalactique de salive dégoulinant sur la charmante moquette argentée de ma voiture de location, reproduit le bouchon, pendant que les autres conducteurs, s'embouillonnant dopés dans l'espresso, m'auraient sérieusement maudite et auraient commencé à me tirer dessus. La voiture me précédant dans le bouchon était une BMW, télécopieur et jacuzzi inclus. Son autocollant m'annonçait « Je préférerais être chasseur-cueilleur ». Soyez attentifs au temps qu'il fait, à tout ce qui vous fend le cœur, à tout ce qui vous l'allège. Puis, consignez-le par écrit.